Avocat d'action, les conseils pratiques, les solutions à vos préoccupations. Avocat d'action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Walter Molongi.
Bonjour. Sur le fleuve Congo, à 3 km en amont de Kisangani, une île, l'île Mbiye. Selon certains chercheurs, cette île garde une richesse importante en espèces animales et végétales. Constat amer, l'île Mbiye est soumise aujourd'hui à une exploitation sauvage. Chaque jour, des arbres sont abattus, ils en sortent soit sous forme d'égrumes, soit sous forme de braises pour être vendus à Kisangani. Les chercheurs de la faculté des sciences de l'université de Kisangani lancent un appel au secours pour l'île Mbiye. En santé, le taux de fréquentation des structures de santé est faible à Ndemba. 5% seulement de la population fréquente ces installations de santé, ces structures de santé. Pourtant, cela fait 3 ans que la zone de santé de Ndemba est assistée par l'organisme International Rescue Committee, IRC. Cette ONG appuie la zone de santé dans le domaine de santé et de l'hygiène. On voudrait atteindre les 30% de fréquentation. La densité de la population à Kinshasa est en forte croissance. L'immobilier ne suit pas. Du coup, trouver une maison à louer qui réponde à vos attentes devient très difficile à Kinshasa. Le marché immobilier est prometteur, les agences immobilières aussi. Arnaque et magouille emboîtent les pas. Les commissionnaires immobiliers deviennent très exigeants. Frais de visite de la maison, frais des commissions et j'en passe. Comment reconnaître une bonne agence immobilière? À suivre dans ce magazine. Enfin, semaine mondiale d'action pour un équilibre socio-économique dans le monde. Près de 80 pays du monde sont déterminés à mener des actions pour dénoncer ce qu'ils appellent commerce illicite. Ces actions visent à dire non aux riches et puissants pays du monde qui imposent aux pays pauvres des accords commerciaux inégaux. À Kinshasa, confessions religieuses et organisations nationales, avec l'appui de l'ONG Christian Aid, ont ouvert depuis le 10 avril une tribune de sensibilisation sur cette problématique. Voilà tout pour Okapi Action. Nous sommes ensemble pour 2 heures de vie à travers la radio. Une seule adresse pour participer, action@radiookapi.net, un seul numéro, 081 890 68 63 94. Alain Goy est à la mise en onde au micro. Walter Molongi.
Kisangani sur 94,8.
Nous vous le disions tout à l'heure, on part tout de suite à l'est de la RDC sur le fleuve Congo à 3 km en amont de Kisangani, une île, l'île Mbiye. Selon certains chercheurs, l'île Mbiye garde une richesse importante en espèces animales et végétales. Constat amer, aujourd'hui, l'île Mbiye est soumise à une exploitation sauvage. Chaque jour, des arbres sont abattus, ils sont exploités sous forme d'égrumes ou braises pour être vendus à Kisangani. Des chercheurs de la faculté des sciences de l'université de Kisangani lancent un appel au secours pour sauver l'île Mbiye de la déforestation sauvage. Anselme Mansoy connaît très bien l'île Mbiye. Il s'y est rendu. Anselme Mansoy, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour à tout le monde.
Pouvez-vous nous donner quelques indications sur la dimension et la valeur biologique de l'île Mbiye, Anselme?
Oui, 17 km de longueur et 4 de largeur, l'île Mbiye, suite à son isolement sous forme insulaire, est source de production de nouvelles espèces végétales et animales. Pour la faculté des sciences de l'université de Kisangani, cette île mérite une protection, s'il vous plaît. Et c'est vers les années 1980 que certains professeurs y ont débuté les recherches. Et on y trouve d'énormes espèces riches, comme le dit professeur Jean-Pierre Maté, doyen de la faculté agronomique à l'université de Kisangani. Nous le suivons.
L'île est fortement diversifiée. Il y a beaucoup de formes de vie nouvelles qu'on trouve dans cette île-là. Par exemple, ici, on a découvert des espèces de rats plus ou moins nouvelles, comme l'espèce qu'on appelle le Phoromys doudoui, qu'on a dédié au professeur Doudou. Et aussi, sur le plan végétal, l'île est hautement diversifiée. Il y a bien d'espèces, même à importance économique. Par exemple, les plantes comme les aphromosia, les plantes comme le chlorophora, ce sont des espèces-là. Et sur les plans d'exploitation forestière, ce sont des espèces qui peuvent rapporter beaucoup de devises pour un pays. Il y a beaucoup d'espèces qui donnent des chenilles, mais qui sont rapidement coupées pour faire la brève. Vous savez qu'il y a bien d'espèces médicinales là-bas qui sont utilisées par la population, dont parfois les analyses chimiques ont montré qu'il y a des principes actifs intéressants. Ici, je vais vous informer que les pharmaciens savent qu'une plante sur deux est médicinale. Donc, lorsque vous avez 10 plantes, 5 sont médicinales. Et à l'île Mbié, compte tenu de la diversité spécifique, on peut s'attendre aussi à une diversité de plantes médicinales. D'ailleurs, les analyses et les observations que nous avons faites là-bas dans nos recherches ont montré que l'île regorge beaucoup de plantes médicinales.
Professeur Jean-Pierre Maté, doyen de la faculté agronomique à l'université de Kisangani, raison de plus pour protéger l'île Mbié. Enseignement soit une question, l'île Mbié est-elle habitée? Si oui, quel peuple y vit et quel est le train de vie des insulaires d'Mbié au milieu du fleuve Congo, au niveau de Kisangani?
Oui, Walter, cette île est peuplée par les tribus Lengola, Nyamituku et Bamboli. Une population d'environ 1500 personnes avec comme principale activité l'exploitation forestière. Selon professeur Maté, l'ignorance accrue de la population sur les valeurs biologiques et économiques des espèces végétales de l'île font que les habitants les détruisent de façon irrationnelle et ils ne gagnent presque rien. Au moment où je vous parle, le un tiers de cette île est déjà déboisé. Professeur Maté.
1 mètre cube d'aphromosia vendu à l'exploitation, ça peut rapporter vers $500. 1 mètre cube seulement. Alors, ce que nous remarquons parfois, la population coupe parfois ces aphromosia-là pour les calciner, pour faire la braise. Alors que, c'est, par exemple, 1 mètre cube d'aphromosia calciné pour la braise ne donne même pas $20. Voilà, donc une exploitation rationnelle rapporterait au pays $500 par mètre cube. Alors que lorsqu'on coupe ce mètre cube-là, lorsqu'on transforme ce mètre cube en braise, on n'a même pas $20. Et nous avons en moyenne les sacs de braise qui viennent de l'île, qui accostent au beach Simestan, c'est autour de 100 sacs par jour. Alors si il faut exploiter par mois, ça vire au 3000 sacs. C'est comme ça que nous devons faire un grand travail d'éducation, de sensibilisation de ces populations-là, pour qu'ils comprennent, par exemple, quelle espèce utiliser pour la braise, quelle espèce laisser pour l'intérêt futur du pays.
Voilà, on voudrait peut-être entendre quelques populations. On a dit que ce sont les Lengola, les Nyamituku et les Bambolé qui peuplent cette île, enseignement soit. Est-ce que ces populations se rendent-elles compte de la destruction qu'elles sont en train d'opérer dans cette île Mbié?
Walter, nous avons eu le temps de nous rendre à l'île à côté de laquelle est érigé un marché à la rive droite du fleuve appelé Simestan. Eh bien, je ne connais pas bien le mot là, Simestan, j'ai tenté même des explications auprès des marchands là-bas, mais ils n'ont pas su expliquer ça. Et c'est dans ces marchés où sont écoulés tous les produits qui viennent de l'île. Nous y avons vu des pirogues et des radeaux de crime, ainsi qu'une quantité de sacs de braise entassés au quai. Et beaucoup d'acheteurs sont au rendez-vous, parmi lesquels le fabricant de briques qui achète en quantité importante de crime pour cuire les briques. Pour la population de cette île, l'essentiel c'est de vivre, peu importe ce qu'ils gagnent. Écoutons ce coupeur de bois que nous avons rencontré au marché Simestan.
Bon, d'abord, moi, on a 45 grimes à 50 grimes. La mine moyenne à boire. 4 grimes. Bon,
et voilà, en ce moment, avant de continuer, je voudrais avoir une précision des situations par rapport à l'île Mbié. Je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. Est-ce que c'est l'île qui est en face de l'île de Wagenya?
Non, ce n'est pas l'île qui est en face de l'île de Wagenya, mais c'est encore en amont de l'île de Wagenya, à peu près à 2 km de cette île-là.
Très bien. Bon, alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les conséquences qu'entraîne cette déforestation de l'île Mbié autour de Kisangani?
Walter, pour le professeur Jean-Pierre Maté, du fait que les effets de déboisement ne sont pas connus par cette population insulaire, il y a lieu que des conséquences néfastes s'abattent sur la ville de Kisangani. Suivons le professeur Maté une fois de plus.
Le grand problème de l'île, c'est-à-dire l'île est très habitée, la population vit essentiellement de cette île-là, alors il y a un problème de déboisement de l'île. Alors lorsque les îles comme ça sont déboisées, et lorsqu'on laisse ce déboisement là-bas, même au niveau de la ville de Kisangani ici, on aura beaucoup de conséquences, notamment par exemple les perturbations du calendrier culturel, la vitesse des vents va augmenter, il va commencer à porter les toitures, les maisons et consorts, et il y aura beaucoup de problèmes sur les plans écologiques. C'est comme ça que nous devons lutter à ce que ce déboisement s'arrête, hein, afin qu'on ne puisse pas arriver à des situations irréversibles.
On est en train d'entendre des scientifiques défendre l'intérêt de faire une exploitation rationnelle et bien contrôlée des espèces qu'il y a sur l'île Mbié. Nous savons qu'au niveau politico-administratif, il y a une autorité qui s'occupe notamment des questions environnementales. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de ces autorités-là, Anselme Mansoy?
Walter, à voir se plaindre les autorités, il règne une certaine anarchie dans ce domaine. Selon Guillaume Somwe Kiasoloa, coordonnateur urbain de l'environnement, l'exploitation de l'île n'est pas réglementée. N'importe qui livre le permis d'exploitation. Suivons-le.
La convention urbaine et la convention provinciale devront protéger cette île. Malheureusement, on constate que certaines personnes qui entrent là-bas, on ne sait pas qui leur donne les documents. Parce que moi, personnellement, chez moi, d'abord, j'ai arrêté beaucoup de gens à cause de cette destruction de cette île. Maintenant, je ne sais pas, puisque c'est question de voir maintenant, c'est faire l'enquête qui donne l'autorisation d'abattage de ces arbres dans cette île. Dans le temps, quand j'avais l'unité de la police, c'est moi qui allais souvent là-bas. La question qui est là, il faut avoir maintenant les moyens pour amener la police.
Amener la police, on verra bien. En ce moment, soit vous qui vivez à Kisangani, vous suivrez tout cela pour nous, mais en attendant que la police y arrive, encore qu'elle soit à l'abri des différentes sollicitations pécuniaires des exploitants. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait actuellement pour protéger l'île, en tout cas du côté des scientifiques de la faculté des sciences?
Walter, sans trop de commentaires, suivons une fois de plus le professeur Jean-Pierre Maté sur cette préoccupation.
Il fallait qu'on parle avec les gens, qu'on parle sérieusement avec les gens. On a fait le tour de l'île, on a monté des petits comités, on a parlé avec les gens, on a fait des rassemblements avec les gens. Il faudrait maintenant qu'on prêche par des exemples concrets. Nous avons commencé aussi à initier quelques travaux, juste à proximité des maisons. Nous avons montré à la population que la berge était riche en éléments nutritifs et qu'on peut faire beaucoup de cultures maraîchères, par exemple les amarantes. On ne s'est pas limité là-bas. On a aussi passé à une opération qu'on appelle reboisement. Parce qu'il y a un grand problème là, la population se sert de bois de chauffe pour la nourriture. Ça, c'est encore moins grave. Ce qui est encore grave, c'est cette histoire que nous cherchons à décrire, c'est l'exploitation des charbons de bois. La population utilise les charbons de bois comme une source de revenus. C'est-à-dire presque chaque ménage doit un peu abattre quelques arbres, parfois des arbres très utiles, faire la braise et venir vendre ici en ville. Alors, on essaie un peu de réglementer cette opération-là. Quelle espèce couper, à quelle quantité, où couper, pour faire de sorte que cela ne puisse pas être la cause principale de la disparition de l'île Mbié.
Attendre le professeur Maté, il y a des actions qui sont en train d'être menées. Qui est-ce qui finance toutes ces opérations de protection et gestion rationnelle de la partie de l'île qui reste encore sous contrôle?
Walter, ayant appris que le gouvernement n'a pas de moyens pour répondre à cette préoccupation, les chercheurs de la faculté des sciences de l'université de Kisangani collaborent actuellement avec l'extérieur pour avoir le financement. Pour votre information, Walter, certains hommes de science, je ne dis pas le chercheur de la faculté de sciences, mais certains hommes de science nous ont laissé entendre que ça vaut la peine que les Occidentaux débloquent des fonds pour le maintien et la protection de cette île, car selon ces scientifiques, la disparition de l'île Mbié entraînerait ipso facto la disparition de la Hollande. Tu connais bien la Hollande, c'est un pays de l'Europe. Mais ils n'ont pas voulu trop s'expliquer sur ce point-là. Écoutons Jean-Pierre Maté sur les appuis extérieurs pour le maintien de l'île Mbié.
Toutes les activités que nous menons à l'île, nous essayons de créer des moyens à partir de nos relations avec les amis qui sont à l'extérieur. Par exemple, les projets sur l'éducation mésologique de la population de l'île Mbié, l'éducation environnementale comme on l'appelle, c'est-à-dire on sensibilise, on parle avec la population pour les conscientiser. Ça, ce sont les Allemands, ici je veux beaucoup les remercier, les Allemands de la fondation Konrad Adenauer, qui ont le siège à Kinshasa, qui nous ont soutenus dans cette campagne-là pendant 2 ans. Ici, on doit beaucoup les remercier parce qu'avec leur soutien, nous avons fait beaucoup d'activités de vulgarisation. Et nous avons aussi d'autres contacts qui ne tissent pas nos relations avec des collègues professeurs des universités du Nord qui nous aident avec des petits moyens pour faire ces activités-là.
Nous retrouverons tout à l'heure professeur Jean-Pierre Matin aux côtés de monsieur Oukair Dogou qui est chef de division provinciale à l'environnement pour la partie invitée en ce même soir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bonne journée à Kisangani.
Merci Walter et bonne journée à Kinshasa.
Au revoir.
Si tu veux m'aider, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête est humaine, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines. Je me ferai tendre pour t'apprivoiser, pour te garder, pour te défendre. S'il le faut, je me ferai sorcier, si tu veux m'essayer. Sans jurer, toujours, juste pour écouter, sans parler d'amour. Si tu veux m'essayer, mais mon ami caresse, de prendre me jeter, sans que l'on se blesse. Si tu veux m'essayer, si ça t'intéresse, sans vraiment engager, mensonge je promets, je serai le plus doux pour te décider, le plus inspiré, le plus fou. Ne pourra jamais oublier si tu veux m'essayer, sans risque ou contrat, juste quelques journées, ça ira ou pas.
Réaction des scientifiques lance un appel de sauvetage pour l'île Mbié. Je vous rappelle que c'est une île qui a 17 km de long et 4 km de large. C'est sur le fleuve Congo, à 3 km en amont de Kisangani. pour commenter cette problématique de risque et de déforestation sauvage qui se déroule sur l'île Mbiyé. Nous avons deux invités, le professeur Jean-Pierre Maté. Professeur, bonjour. On l'a perdu. Oh là là, ça alors, on va le retrouver. Bon, mon studio de Kisangani, je ne sais pas s'il y a un petit problème, non, mais mon technicien d'antenne essaye de les rappeler immédiatement. Ou c'est Nicole, ou c'est lui, bon, je ne sais pas. On va suivre ça. Donc, rappel pour nos auditeurs, cette île Mbiyé est soumise actuellement à une forte déforestation. Les bois sont coupés pour des besoins notamment de construction, pour des besoins énergétiques. Il y a de la braise qui est fabriquée à partir de là. On nous a démontré que, par exemple, pour la braise, c'est moins rentable que lorsque c'est exploité autrement. Mais bon, cette fois-ci, on me dit que c'est possible de pouvoir avoir nos experts. Professeur Jean-Pierre Maté.
Oui, c'est professeur Jean-Pierre Maté.
Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
À côté de vous, on doit avoir monsieur Oukerdogou.
Oui, oui. Et j'ai en présence de moi ici l'ingénieur Oukerdogou de l'environnement.
Monsieur Oukerdogou, bonjour. Enfin, on va commencer avec le professeur. Professeur Jean-Pierre Maté, nous vous avons entendu démontrer, si vous voulez, de l'importance par rapport à la nécessité de protéger l'île Mbiyé. Mais bon, vous l'avez peut-être dit vous-même, sous-entendu, ce que les populations qui vivent sur cette île ne vivent que de cette île-là. Est-ce que pour mieux protéger cette île, vous ne pensez pas qu'il faille leur proposer d'autres activités alternatives pour diminuer la pression sur les espèces qu'il y a sur l'île?
Oui, tout à fait. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit que la population est à l'île, la population vit essentiellement des ressources de cette île, mais cette exploitation est un peu désordonnée, irrationnelle, qu'on qualifie aussi d'incivique. Et c'est comme ça que nous avons réfléchi pour essayer un peu de montrer à cette population une exploitation que nous qualifions de rationnelle, de durable, c'est-à-dire qu'il peut vivre de ses ressources, mais d'une manière intelligente. Et je peux donner un exemple. Oui. Par exemple, au lieu de couper des arbres aussi précieux comme des aphromosia qui peuvent relancer l'économie de tout un pays, il y a des essences de moins d'importance, déjà chères, qui peuvent aussi se servir comme bois de chauffe, comme charbon de bois. Comme ça, on laisse des espèces spécieuses pour l'économie du pays. Des actions comme ça, je pense qu'il faudrait les porter à la connaissance de la population locale qui ignore beaucoup de choses.
Mais parce que cette population nous écoute, c'est quelles espèces que vous leur conseillez d'utiliser pour la fabrication de la braise, par exemple?
Voilà. D'abord, nous déconseillons à ceux qu'ils utilisent pour la braise des essences que nous qualifions de première classe dans la classification forestière. Ce sont des essences-là qui peuvent, une fois vendues à l'extérieur, ça peut donner beaucoup de devises pour relancer l'économie de notre pays. Alors, pour la population, nous recommandons, il y a des essences présentes déjà chères. Les jachères sont des milieux un peu vagues qu'on appelle la soie et l'isocolo. C'est-à-dire qu'ils peuvent prélever des arbres comme des altisias et des bridélias qui donnent aussi du bois de meilleure qualité. Alors ces altisias, ces bridélias sont des essences qui ne sont pas directement exploitables sur le plan économique. Et voilà un peu ce que nous conseillons à la population.
Mais professeur, quand vous dites albizia et tout, je sais pas, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous ne pouvez pas donner le nom connu vers
voilà, les albizia, on les appelle communément ribamba. Mm. Ribamba. Hein, les gens de Kisangani connaissent ça. Mm-hmm. Et les bridélias, on les appelle communément makaranga. Mm-hmm. Hein, et il y a des bois qu'on appelle alimeti. Mm. Hein, parce que ça brille bien, ça peut donner des charbons de bois. Ce sont des arbres qui se trouvent dans des endroits un peu vagues que nous appelons jachère. En termes swahili, on appelle ça sokolo. Mm-hmm. C'est une étendue forestière qui est un peu très déboisée, où il y a des herbes qu'on sort, il y a quelques arbres qui poussent là-bas. Mm-hmm. Alors nous leur conseillons d'utiliser ces arbres-là qui ont moins d'importance sur le plan économique, mm-hmm. et de laisser les arbres de forêt primaire, hein, des arbres comme des aphromosia, des chlorophora, qui peuvent engendrer beaucoup de devises pour relancer l'économie d'un pays.
Aphromosia et chlorophora, c'est comment que ça s'appelle dans le coin pour que les populations puissent mieux les protéger et les laisser pour l'exportation?
Le nom vernaculaire, vous demandez?
Oui, aphromosia et les meilleurs, quoi.
Oui, oui. Aphromosia, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques, Pericopsis elata. Et le terme Afromosia, c'est un peu un langage commercial. Ah. La population connaît ça, Afromosia.
Ah,
ce sont des essences très précieuses. D'ailleurs, la plupart des sociétés d'exploitation forestière qui viennent chez nous, c'est entre autres pour utiliser cette essence-là pour l'exploitation. C'est vraiment une chose très, 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 très appréciée par les exploitants forestiers.
Mais l'autre question, professeur, ok, admettons que les populations comprennent qu'il faille laisser les espèces prisées dans l'exportation pour cette tâche-là, mais comment ces populations vont-elles bénéficier, si vous voulez, de l'exploitation économique de cette forêt, les retomber sur leur bien-être localement?
Voilà, c'est ce que nous avons, c'est-à-dire, nous, dans un premier temps, on fait un effort pour quand même qu'on ne puisse pas couper ces essences précieuses pour la braise. Parce que ça, c'est un gaspillage vraiment lamentable. Alors nous, on conseille la population qui laisse ces espaces, ces espèces précieuses dans leur forêt primaire. Et comme ça, quand le pays, à un moment donné, le pays va se remettre, le pays va commencer une exploitation, par exemple, rationnelle, hein, exploiter certaines essences pour l'extérieur. Alors à ce moment-là, je pense que les devises qui vont naître de la vente de ces bois-là peuvent être maintenant réparties de manière équitable à la communauté locale, à la province et à la nation.
Quelle garantie?
C'est un problème qui doit résider maintenant au niveau des décideurs du pays.
Mais oui, quelles sont les garanties que ces populations-là qui vont se sacrifier de ne plus exploiter ces essences très prisées pourront en bénéficier? Je veux dire, une école, un hôpital et tout, si on leur dit, c'est grâce à votre action de participation à la protection de cette île, de cette forêt, que vous avez bénéficié de cette école, de cet hôpital, ou d'une route bien aménagée, ou d'un site touristique. Ils ont besoin si vous voulez, des projets concrets comme ça, et là, ils peuvent mieux comprendre le langage de sensibilisation écologique, professeur.
Oui, je vous comprends parfaitement. Et c'est-à-dire, et pour que la conservation puisse porter des fruits, il faudrait que la communauté locale tire profit de cette conservation.
Mmh.
Alors c'est comme ça que nous essayons de montrer à la communauté locale qu'il ne sert à rien de couper ces essences-là, parce qu'une fois que la forêt, l'île Mille est privée de ces essences-là, l'île ne vaudra pas une certaine valeur.
Mmh.
Alors la population a compris aussi que depuis que nous menons nos recherches à l'île, on a essayé de monter des petites infrastructures au niveau de l'île. Il y a même un projet, comme ce que vous dites là, et nous avons des contacts avec les serrières. Il y a des projets, si tout va bien, et si les amis continuent à nous prêter confiance, il y a des projets de faire des petits centres médicaux, comme tu dis là. Et ailleurs, nous travaillons non seulement à l'île Mbile, mais aussi aux environs de Kisangani. Ailleurs, on est intervenu dans une école, toujours à montrer l'exploitation rationnelle, tout ça. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation autour de ça. Et il y a par exemple la coopération belge, hein, c'est la route Bouta à 15 km, qui a compris la nécessité par exemple d'aller réhabiliter les écoles dans les sites où nous travaillons.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, la population a commencé à comprendre que lorsqu'on intervient, quelque part, on donne des conseils, on les organise, on essaie de mobiliser certains bailleurs de fonds. À un moment donné, et ça je suis très content de vous le dire, ça porte des fruits là où nous intervenons. Les gens de bonne volonté viennent nous appuyer en faisant des petites activités au profit de la population. Et à ce moment-là, la population trouve que la conservation est quand même rentable parce qu'ils voient des retombées de cette conservation directement.
Très bien. Alors, je voudrais poser quelques questions, deux, trois, qui suivent à M. Oukerdogou, l'ingénieur Oukerdogou, qui est chef de division provinciale de l'environnement au niveau de la province orientale. M. Oukerdogou?
Oui, je suis là au conseil.
Alors, nous avons entendu tout à l'heure que l'exploitation est désordonnée, n'importe qui délivre des permis d'exploitation. Que se passe-t-il?
Ok, merci monsieur le journaliste. Je pense que nous avons beaucoup d'hiérarchisation au niveau de l'administration. Moi, je suis au niveau provincial. Il y a le niveau urbain, il y a le niveau de commune. Cette façon de délivrer le permis d'une façon illégale, je crois, ça doit émaner des entités de base. Mais sinon, le vrai problème chez nous, c'est le problème de surveiller les forêts qui sont destinées à l'aménagement. Et cette surveillance devait être assurée par nous autres, l'administration provinciale forestière. Le problème que nous avons, c'est le problème institutionnel. On n'a pas suffisamment d'agents comme gardes forestiers ou gardes de chasse pour assurer cette protection. Et sinon, en général, nous sommes un bon partenariat avec l'Université de Kisangani, spécialement la Faculté des sciences, pour protéger cette forêt et la conduire à devenir même une forêt classée dans l'avenir, mais telle que nous subissons avec eux ensemble la pression anthropique de la population. C'est ça le problème à vous, monsieur le journaliste.
Mais il y a un auditeur de Lubumbashi qui est presque en colère contre vous, parce qu'il se demande pourquoi le service de l'environnement à Kisangani est en train de briller par son désordre. Il rappelle qu'on a connu le problème de rhinocéros blanc il y a quelques mois, c'est encore latent. Aujourd'hui, on parle de l'exploitation irrationnelle du bois. Il se demande qu'est-ce que vous faites exactement.
Ok, merci de cette très bonne question.
Je m'appelle Pierrot Camon.
Vous savez, dans tout ce que nous faisons, nous avons l'administration centrale. Et nous devons avoir nécessairement une politique tout à fait éclairée de tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé sur les rhinocéros blancs, je crois, ça émane d'un service que j'appelle service sous tutelle au niveau de la province. Ce service n'est pas d'une direction générale à Kinshasa. Ce qui s'est passé, je crois, mon chef direct qui est ici, son Excellence Monsieur le Gouverneur, lui-même m'avait posé cette question. J'ai eu difficile à m'y expliquer parce que les décisions n'émanaient pas de l'administration provinciale à vous.
Mais alors, comment, parce que c'est vous quand même le chef de division de l'environnement et la délivrance, si vous voulez, des permis d'exploitation dans les forêts dépend de vous. Comment peut-on expliquer qu'au niveau communal ou au niveau des quartiers, d'autres autorités ou au niveau urbain, on délivre des autorisations sans que vous, vous le sachiez?
Bon, écoutez, au niveau de chaque entité, vous savez qu'il y a une autorité politico-administrative. Ils ont, dans leur précision budgétaire, peut-être des taxes ayant trait à l'exploitation des ressources naturelles, mais tel que je ne suis pas tombé sur ces documents dont que révèle mon coordinateur urbain, je pourrais vérifier, savoir exactement si ces documents sont réellement délivrés puis réprimer cette action à vous, monsieur le journaliste.
Est-ce que vous pensez, c'est ma dernière question, est-ce que vous pensez que d'ici là, il vous sera possible de pouvoir remettre de l'ordre, ne serait-ce que dans la délivrance des permis d'exploitation forestière au niveau de la province orientale, parce que c'est vous le chef de division.
Oui, mais je vous dis bien que je ne délivre pas les permis d'exploitation forestière. Ce que je fais, j'oriente les dossiers de toute coupe de bois, quelle que soit l'étendue de la superficie, je l'oriente au ministère. Il y a l'autorité de tutelle qui est là-bas, qui délivre les permis d'exploitation. Je ne suis pas habilité à délivrer les permis d'exploitation. Mmh. Je crois au moment où je vous parle, j'ai une trentaine de dossiers d'exploitation industrielle et artisanale que j'ai orienté au ministère. J'attends que ces permis m'arrivent. S'il y a d'autres petits documents que mon collaborateur appelle permis d'exploitation, ce n'est pas délivré à notre niveau. Et personne d'autre ne peut le faire. Sauf peut-être d'une façon anarchique. Il y a des petits documents comme par exemple les licences peut-être d'achat et vente de charbon de bois et de bois de chauffe qui sont alignés au niveau des budgets des entités décentralisées, ça possible. Mais pas les permis d'exploitation. Ça je refuse catégoriquement et je vais lui demander de me montrer ce document à vous, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup. On va clôturer avec le professeur Jean-Pierre Maté pour la dernière question et on va clôturer ce débat. Professeur Jean-Pierre Maté.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, professeur, ma dernière question est celle-ci. Il faut mener des campagnes, si vous voulez, des campagnes de reboisement des espaces déboisés. Quelle est la politique ou le conseil de la faculté d'agronomie au niveau de l'université de Kisangani en vue de sauver l'île Mbié?
Ok, merci beaucoup de la question. Je vais circoncire ça dans le cadre des interventions que nous faisons à l'île Mbié. Alors, comme on a dit tantôt, on commence d'abord par une sensibilisation de la population. Nous passons dans les villages, on regroupe les gens, nous parlons, on constitue des petits comités, des suivis, des sessions, tout ça, et ça c'est la première étape. Alors, on essaie aussi de passer régulièrement pour voir un peu le niveau d'exécution de ces comités-là. Qui a coupé tel arbre, pourquoi il a fait, qui a déboisé là-bas, qui a fait ceci. Et on essaie de suivre ça et on essaie de donner des conseils mutuels, parler plus à la population, et pour qu'ils comprennent qu'ils doivent le faire de manière rationnelle. Alors nous avons fait ce travail avec l'appui de la fondation allemande Konrad Adenauer, dans le CCT à Kinshasa. Je remercie aussi beaucoup cette fondation. Alors, au deuxièmement, nous sommes passés maintenant à une action d'envergure, c'est-à-dire initier la population locale à des systèmes d'échange plus ou moins durables, permanents. C'est-à-dire on travaille en place, on ne se déplace pas tout le temps comme font les paysans. Alors, c'est comme ça qu'on a défini un peu des zones qui sont un peu plus riches, vers la berge de l'île, et on montre à la population qu'il y a moyen de faire des cultures maraîchères, des amarants, des épinards, et des aubergines, sur ces berges-là qui sont très riches avec les eaux de crue. Et avec ça, la population cultive sur ces sols qui sont riches de manière durable. Ils restent en place, ils ne se déplacent presque plus. Et pendant ce temps-là, vous comprenez que les forêts se régénèrent. Ça, c'est une deuxième action. Dans une troisième action, nous sommes dit, bon, comme le problème de bois de chauffe, le problème de charbon de bois, qu'on le problème épineux là-bas, il faudrait qu'on initie aussi des petits programmes de reboisement. Ici, je vous assure qu'on n'a pas de moyens. Nous essayons de travailler avec des petits moyens qui viennent de nos collaborations avec l'extérieur, les amis, professeurs qui nous portent confiance. Alors, on essaie de définir avec la population des arbres qui leur sont utiles. Alors, nous essayons de les produire avec la population en pépinière. Dès que c'est produit, nous aménageons des espaces derrière les habitations où nous passons au reboisement. Chaque famille reçoit une cinquantaine de pieds qu'il doit planter derrière la maison. Et ce sont des plantes à croissance rapide, des espèces locales. Dans l'espoir que dans 2 ou 3 ans, la population a suffisamment de bois à proximité du village, lequel bois peut être utilisé comme charbon de bois, lequel bois peut être utilisé comme bois de chauffage. Alors vous comprenez qu'avec ces actions-là, on essaie de mobiliser la population tout autour de son village. À ce moment-là, les forêts restent intactes, les forêts se régénèrent. Et je vous dis ici que nous avons fait un bilan dans 10 ans de notre évasion à Lille. Nous avons remarqué que la situation catastrophique que nous avons trouvée au départ, avec les actions que nous avons menées, même les photos satellites montrent que l'île a une tendance de reforestation, de régénération. C'est-à-dire, on essaie un peu de réduire, on ne peut pas dire qu'on a annulé, on essaie un peu de réduire l'impact de la population sur les ressources forestières de l'île.
Mmh. Et voilà, alors, professeur Jean-Pierre Maté, je rappelle que vous êtes doyen de la faculté d'agronomie au niveau de l'université de Kisangani. Merci beaucoup d'avoir donné toutes ces réponses. Merci aussi à monsieur Oukeur Dogou, chef de division provinciale en environnement. Bonne chance pour votre combat de sauvetage pour l'île Mbiyé et à la prochaine occasion.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Merci, professeur.
La fréquence de la terre avec le soutien des coopérations suisses, britanniques, américaines et néerlandaises. Radio Okapi, le chiffre du Congo.